Chapitre 6. Renseignements soigneusement pris. Grand changement dans l'apparence de la fortune de M. O'Donaghue. Foscroft reparaît. Ils expliquent. Ce qui résulta de cet événement ne sera connu que plus tard. Patty donne une preuve de ses dispositions sympathiques. Ayant continué à s'informer de l'état de fortune du jeune baronnet, M. O'Donaghue trouva le résultat de ses recherches si beau qu'il conçut la pensée de modifier tous ses plans. Il se décida à louer immédiatement, pour un an, un fort bel hôtel meublé situé dans Curzon Street, l'une des rues les plus élégantes de Londres, et à s'y installer sur le champ. 8 jours donc après sa conférence avec Sir Henry Seymour, il annonçait son changement de projet à sa femme et à sa fille. Sur Mistress O'Donaghue, l'effet de cette nouvelle fut si violent qu'on peut dire qu'elle en fut comme grisée, et non pas pour quelques heures, mais bien pour quelques semaines. Quant à Patty, l'idée de pouvoir arriver à devenir une Milady lui tournait tellement la cervelle que pour elle, tout le reste passait presque inaperçu. L'installation, montée sur un pied qui transportait d'aise Mistress O'Donaghue, fut menée grand train. On décora avec soin tout un étage composé de salons de réception, on arrêta une cuisinière, une femme de chambre, un grand gaillard comme valet de pied, un petit bonhomme comme groom. Et quand enfin arriva le jour, le grand jour, où M. O'Donaghue se transformait en maître de maison, tenant essentiellement, aussi bien aux yeux des domestiques qu'à ceux de tout le monde, à avoir l'air de venir de Richmond avec sa famille, ce gentleman arrangeait leur prise de possession de la maison de Londres de la façon suivante. Le matin, de très bonne heure, Mistress O'Donaghue et sa fille partaient en voiture pour Richmond, où elles débarquaient à l'hôtel. Pendant ce temps, M. O'Donaghue faisait transporter toutes les malles, toutes les boîtes, tous les paquets, etc., du petit logement à la nouvelle maison. Puis, montant lui-même en omnibus, il allait rejoindre ses dames à Richmond, où, après les avoir gratifiées d'un déjeuner de sandwich et de gâteaux au fromage, il les faisait monter dans une chaise de poste à 4 chevaux. Et c'est ainsi, à l'inexprimable joie de Patty, qu'ils arrivaient au grand galop, à la porte de l'établissement de Curzon Street, où le valet de pied, le groom, la femme de chambre et la cuisinière les recevaient avec un style qui causa à Mistress O'Donaghue une émotion plus facile à imaginer qu'à décrire. Un thé bien servi les attendait, et M. O'Donaghue, jugeant le moment propice pour expliquer à ces dames ce qu'il désirait d'elles dans ce nouvel état de choses, se préparait à parler, lorsque son épouse entama la conversation en s'écriant « Eh bien, Patty, ma chérie, est-ce que tout cela n'est pas splendide ?»« Je le trouverais infiniment plus splendide s'il y avait un peu de compagnie, » répondit naïvement la jeune fille. « Voilà qui peut être fort naturel, Patty, » observa gravement le père, « mais ce n'est guère poli. » Et puisque nous en sommes sur ce sujet, je veux vous prier l'une et l'autre d'être fort attentives à cet égard. Il vous faut actuellement avoir des manières excessivement comme il faut, aussi bien dans votre langage que dans vos actions. Tandis que son mari parlait, Mistress O'Donaghue était devenue extrêmement rouge. Et il avait à peine achevé que, le sein tumultueusement soulevé par une profonde indignation, elle s'écriait « Voilà du nouveau maintenant. Que dites-vous donc là, monsieur O'Donaghue? Et devant ma fille encore? Sachez que, comme manière, elle n'aura jamais devant les yeux un exemple plus parfait que celui de sa mère. Dès ma plus tendre enfance, on me remarquait pour l'excellence de ma tenue. Ah, vous êtes bien la première personne qui ait jamais trouvé quelque chose à redire à mes manières. Mais, ma chère, sur l'honneur, je n'ai rien voulu dire de blessant pour vous. Seulement, Patty est fort jeune, vous savez, et il est bon de la mettre sur ses gardes si elle veut vraiment devenir Milady Seymour. Le jeune homme a beaucoup vécu dans la société des Hubert, et je parierais, si on lui en parlait, qu'il citerait comme des modèles de suprême élégance Mistress Hubert et sa fille. Ces dangereuses paroles n'avaient pas été prononcées que l'infortuné O'Donaghue était assailli à la fois par les cris de sa femme et ceux de sa fille qui luttaient à qui l'emporterait de violence. « Vous ne voulez pas dire, j'imagine, » vociférait la plus âgée des deux femmes, qu'un seul être vivant, doué de bon sens, aurait l'idée de préférer aux miennes les manières de cette Agnès Willoughby, si roide, si froide, si empesée. Aux miennes ! Grand Dieu du ciel, dire que j'ai assez vécu pour entendre dire une chose pareille. Major, monsieur, je veux dire monsieur Allen O'Donaghue, oh, que ne donnerais-je pas pour avoir à cet égard l'opinion de Lord Mucklebury. Eh quoi ! Glapissait de l'autre côté une voix jeune et perçante. Vous prétendez que Jack me préférerait cette longue perche de Miss Elizabeth ? Eh bien, qu'il la prenne, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Oh, psst ! Sifflait entre ses dents M. O'Donaghue, tout en étendant ses deux bras au-dessus de sa tête, comme pour chasser un essaim de mouches à dard. Quel bruit vous faites, mesdames, à propos de rien ! Vous ne m'avez pas compris, voilà qui est bien certain. Mais, ma Barnabé, il me semble vous avoir entendu prononcer tout à l'heure le nom de Lord Mucklebury. Je vous avouerai que je serais charmé de vous voir renouveler connaissance avec lui. Il me serait agréable de lui être présenté par vous, et je vous promets de ne pas être jaloux. » Ce petit discours contenait de quoi cicatriser toutes les blessures qu'avait infligées l'autre. La conversation, dans laquelle on esquissa un avenir de la plus grande splendeur, prit donc un tour des plus agréables, et jamais une meilleure harmonie n'avait régné entre l'ex-major et sa Barnabé. Et ainsi, il arriva que le premier visiteur introduit par le grand valet de pied et le petit groom dans les nouveaux salons de Mistress O'Donaghue fut M. Firstcroft. Ce gentleman, ayant conservé quelques affaires d'argent à régler avec M. O'Donaghue, était resté en correspondance avec lui. C'est ainsi qu'il avait connu sa nouvelle adresse, sans toutefois se douter du changement survenu dans la manière de vivre de ses amis de Brighton. Ce fut donc avec un étonnement non dissimulé que le lieutenant vit tout le luxe, toute la splendeur, déployée dans les salons de Mistress O'Donaghue, sans parler d'elle, de sa fille et de ses domestiques. « Bonjour, capitaine Foxcroft. Eh, mon Dieu, comme vous regardez autour de vous !» s'écria Mistress O'Donaghue en lui tendant très cordialement sa main. « Voyons, est-ce que vous ne reconnaissez pas Patty ? Oh, par exemple, ça c'est trop fort, comme si vous ne l'aviez jamais vue en toilette à Brighton !» « Je vous demande un million de pardons, ma chère Miss Patty, » répondit le visiteur en traversant la chambre pour venir presser et secouer avec véhémence la main de la jeune personne. « Vous eussiez-je retrouvé sur un trône, j'aurais toujours reconnu votre charmante figure. Seulement, je ne me doutais pas de l'élégance de votre résidence à Londres. »« N'est-ce pas ravissant, Patty ?» dit Mistress O'Donaghue en riant de tout son cœur. « Venez voir, Foxcroft !» ajouta-t-elle en conduisant majestueusement son hôte, d'abord dans le second, ensuite dans le troisième salon. « Je trouve que cette pièce est une véritable perfection, surtout à cause de ce renfoncement si bien masqué par les draperies. Vous remarquerez que toutes les cheminées ont des glaces. Il y a énormément de maisons, et de très élégantes, où il n'y en a qu'une par pièce. On n'imagine pas la différence que cela fait. » Mais M. O'Donaghue a tant de goût et est si généreux. Asseyez-vous donc, capitaine Foxcroft, là, sur le sofa. Je sais bien qu'il est magnifique, mais à quoi bon avoir de belles choses si l'on a peur de s'en servir, surtout dans une maison meublée. Dieu sait ce que nous la payons. En vérité, madame, il est facile de s'en douter, mais on est bien heureux de pouvoir faire les choses d'une aussi noble façon. Comment va M. O'Donaghue ? J'ai quelques mots à lui dire, et en entrant, l'on m'a dit qu'il était ici. Si cela ne le dérange pas, pourrais-je lui parler ? Je crois qu'il est dans la bibliothèque, répondit Mr. O'Donaghue avec beaucoup de dignité. Sonnez, Patty. Je vais envoyer le groom lui dire que vous êtes là. Lorsque Mistress O'Donaghue croyait se sentir placée en dehors du commun des martyrs, sa manière de parler subissait un changement difficile à décrire. Pour prendre l'air à la fois important et raffiné, elle ne prononçait plus que du bout des lèvres en supprimant les R. Je ne saurais vous assurer, capitaine Foxcroft, dit-elle après avoir donné la commission au petit faquin couvert de boutons qui avait répondu à la sonnette. Je ne saurais vous assurer que M. O'Donaghue soit chez lui. Mais s'il y est, je suis certaine qu'il vous recevra avec plaisir. le pauvre Foxcroft était venu pour une affaire assez désagréable. Cette sublime supériorité qu'on lui faisait si bien sentir lui alla jusqu'au fond du cœur, et poussé par la crainte de se voir complètement écrasé par elle, plutôt que par le désir de jouir en ce moment de la vivacité enjouée de Miss Patty, il se leva, traversa la pièce et vint se placer auprès de la jeune fille, qui, étendue sur une causeuse, regardait dans la rue. « J'espère, Miss Patty, que vous n'avez pas oublié un ancien ami, maintenant que vous êtes dans une nouvelle installation. »«
Non, certainement, capitaine Foxcroft, » répondit Miss Patty, qui paraissait assez flattée de cette manière d'entrer en matière. « Ni moi, ni aucune de vos anciennes amies ne vous avons oublié, je puis vous l'affirmer. »
Ravi de trouver un membre de la famille dont les manières n'avaient pas changé, M. Foxcroft exprima sa reconnaissance et ajouta « Je ne crois pas avoir besoin de vous dire, ma chère Miss Patty, que pour ma part, je suis toujours le même. »
« Tant mieux !» répondit Patty avec l'exaltation d'une bonne amie. « Et je suppose que vous m'autorisez à répéter cela où je voudrais ?»«
Sans doute, ma chère demoiselle, » répliqua-t-il avec l'air de quelqu'un qui éprouve une révélation soudaine. Car, pour dire la vérité, il venait de se rappeler, pour la première fois depuis son entrée dans les salons, que l'une de ses amoureuses était, ou avait été, une amie de la maison. Par le fait, les intérêts personnels de M. Foxcroft l'avaient tellement occupé pendant ces derniers temps qu'il avait complètement oublié la belle Mathilda, et sans l'emphase dont Patty avait souligné la phrase « Où je voudrais », sa pensée ne se serait pas portée vers cette ancienne conquête. Mais il était fort important pour lui d'être sur un bon pied dans la maison de M. O'Donaghue. Les influences féminines ont toujours une grande puissance, et de plus, il n'était pas impossible qu'après plus amples renseignements, de plus fortes raisons ne lui fissent désirer de renouveler ses tendres relations avec la sensible Mathilda. Tandis que ses réflexions traversaient rapidement son cerveau, ses yeux s'animaient et exprimaient cette tendresse de second ordre que les hommes de la trempe du lieutenant éprouvent pour les confidents de leur belle. « Que vous êtes bonne de vous intéresser ainsi à moi, Miss Patty !» dit-il, la tête légèrement penchée d'un côté, en joignant les mains avec ferveur. « Vos yeux lisent dans ma pensée, je le sens, et vous pouvez redire « âme ». Aux personnes dont vous avez la confiance, tout ce que vous y avez vu.
À la bonne heure, voilà qui est clair et net, répondit Patty. Elle saura tout ce que vous m'avez dit, fiez-vous-en à moi.
En ce moment, le groom revenait, annonçant que son maître serait heureux de recevoir le gentleman dans la bibliothèque. Après avoir jeté un coup d'œil d'intelligence à Patty, M. Foxcroft suivit le groom, qui l'introduisit dans une pièce du fond, assez grande certainement pour faire une bibliothèque, à la condition qu'on y eût placé des livres. Mais on n'y voyait que de très rares échantillons de ce genre d'ornement. D'ailleurs, on y trouvait tous les meubles composant une bibliothèque. Une table oblongue recouverte en cuir et entourée de rideaux, sur laquelle gisaient 1000 menus objets, entre autres un encrier, des plumes et du papier, une autre table supportant une quantité de journaux, pêle-mêle avec un crochet à boutons et une corne à souliers. De plus, deux grands casiers dont les rayons attendaient probablement les amis silencieux du logis, mais qui, pour le moment, cachaient derrière leurs vitres le linge et les habits de M. O'Donaghue, ce gentleman ayant déclaré avec sa moitié que cette pièce lui servirait de cabinet de toilette. Toutefois, malgré l'absence de livres, M. O'Donaghue lisait. Et trouvant que, grâce à une robe de chambre en calicot imprimé, sa tenue, tandis qu'il se livrait à ce passe-temps littéraire, était des plus convenables, il se dit qu'il ne pouvait mieux faire que de recevoir son ami dans de telles conditions. Jetant donc la revue du sport qu'il parcourait, il daigna se lever en tendant une main à son visiteur. « Ah, Foxcroft, mon cher garçon, je suis heureux de vous voir. Comment avez-vous fait pour obtenir un congé ?» Seulement, vous venez un mois ou deux trop tôt. Il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment, dit M. O'Donaghue. M. Foxcroft secoua la tête et sa figure naturellement longue s'allongea encore. Que diable y a-t-il ? Reprit le maître de la bibliothèque. Vous avez l'air aussi navré que si vous étiez au pilori. Tout est fini pour moi, O'Donaghue,
répondit son hôte, on m'a mise à la porte. Pas ouvertement, remarquez bien, seulement on m'a fait dire de vendre ma commission. Il n'y a que deux hommes dans le régiment d'Ashmore et Willis qui sachent ce qui en est. Cela vaut mieux que si c'était connu de tous, mais ce n'en est pas moins une maudite affaire, et je viens vous demander de me conseiller.
Sur mon honneur, monsieur Foscroft, reprit gravement monsieur O'Donoghue, tout gonflé de prospérité. C'est ce qu'il m'est bien impossible de faire. J'avais espéré que vous étiez venu pour terminer le petit compte que vous avez avec moi, car vous devez bien penser, après tout ce que vous avez vu, que je dois avoir besoin de rentrer dans mes fonds.
Mon Dieu, O'Donoghue, le ciel sait qu'en ce moment précisément, je ne sais de quel côté me tourner pour trouver une livre.
Et sur mon âme, monsieur, je ne saurais où vous envoyer à cet effet. Pareille catastrophe a dû être provoquée par une grande imprudence ou par quelque manœuvre bien maladroite. Je vous avoue que j'avais toujours compté vous voir vous arranger de manière à vendre, de façon à vous libérer envers vos amis. Vrai, je vous croyais incapable de faire si gauchement vos affaires.
Par pitié, O'Donoghue, ne me faites pas de reproches. Je vous affirme sur l'honneur que je n'en mérite pas. Ça a été un simple accident et nullement une bévue de ma part. J'avais envoyé un mot à Dashmore par une ordonnance. L'imbécile s'est trompé et l'a remise à Grove, qu'il a ouvert sans avoir lu la souscription, prétend-il. Comme le billet était signé As de trèfle et ne contenait que quelques allusions au jeu, ce mêle de tout l'a porté au colonel, sous prétexte qu'il devait y avoir là quelques plaisanteries offensantes pour l'honneur du régiment. Dashmore a été appelé, tenu sur des charbons ardents, où, enfin, après avoir essayé de ruser, ce qui a encore envenimé les choses, il a fini par avouer que le billet était de l'écriture du lieutenant Foscroft, sur quoi on m'a coffré et très poliment ordonné l'ordre de vendre.
Fameux idiot, tout sang que vous êtes, dit M. O'Donoghue froidement. Et, en vérité, Foscroft, je ne sais trop si dans l'opinion publique, il ne me sera pas très préjudiciable de me montrer avec vous.
Le public ne saura jamais rien de tout ceci, répondit vivement l'ex-lieutenant, car même avant mon départ de Brighton, le régiment recevait l'ordre de se préparer pour les Indes orientales.
Allons, vous êtes un heureux coquin, répliqua M. O'Donoghue d'une façon un peu moins acerbe. Alors vous n'avez qu'à vous tenir tranquille jusqu'à ce qu'il soit parti. Après, vous direz que vous avez vendu votre commission pour cause de santé.
C'est précisément ce que je voulais faire, mais je vous assure que je n'aurai pas un moment de repos tant que je ne vous aurai pas payé ma dette.
C'est fort bien, Foscroft. Seulement, c'est bien le diable si je vois un moyen de vous procurer de l'argent. Avant Noël, il ne faut pas penser à fréquenter les clubs, et d'ici là, qu'allez-vous faire? Ne feriez-vous pas mieux d'aller soit à Bath, soit à Cheltenham?
Mon cher ami, répondit brusquement, non sans un léger embarras, M. Foscroft. Pourriez-vous me dire si, depuis que vous êtes en ville, vous avez appris quelque chose de certain sur cette Miss Perkins qu'on voyait si souvent chez vous à Brighton?
Sur mon honneur, Foscroft, je ne saurais trop que vous en dire. Elles habitent un petit appartement fort décent à Brompton et paraissent jouir d'une certaine indépendance.
Eh bien donc, mon cher ami, répondit M. Foscroft, pendant que je n'ai rien de mieux à faire, ne pourrais-je tenter quelque chose de ce côté? Et soyez bien certain qu'en agissant ainsi, ma principale pensée est de me décharger de la dette que j'ai contractée envers vous. Croyez-vous que Mistress O'Donoghue refuse de m'emmener la première fois qu'elle ira chez ces dames?
Ma foi, il faut vous dire que Mistress O'Donoghue n'a pas encore de voiture, voilà le fait. Celle que je lui fais faire ne sera pas prête avant Noël.
Mais pourquoi ne verriez-vous pas les demoiselles Perkins ici?
Et tout à coup, se levant, monsieur O'Donoghue s'écria:
venez, mon cher garçon, montons au salon, nous consulterons Mistress O'Donoghue à ce sujet.
Et comme, à mesure qu'ils approchaient, on entendait Foxcroft rire dans l'escalier, Mistress O'Donoghue se mit à dire:
il est clair qu'il a été bien reçu, autrement il ne rirait pas ainsi.
Bien reçu, s'écria Miss Patty. Et pourquoi donc n'aurait-il pas été bien reçu? Il faut que vous sachiez, maman, qu'aux yeux de certaines gens, il semble charmant, malgré ses cheveux gris et son gros nez. Et je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas poli avec lui. »
Ta ta ta, Miss Patty, qui est-ce qui vous parle de ne pas être poli avec lui, je vous le demande.
Mais en fait de dignité ou de ce que nous impose une certaine manière de vivre, en vérité, vous n'êtes qu'un bébé. »
Ma chère, je vous ramène Firstcroft, dit M. O'Donaghue, entrant irrévérencieusement avant son ami, pour que vous preniez un jour avec lui afin qu'il vienne dîner. Vous savez, mon cher ami, je n'ai pas l'intention de commencer mes dîners périodiques avant l'époque de la saison. Mistress O'Donaghue recevra un ou deux soirs par semaine bientôt. Entre nous, je ne serai pas fâché de faire un revers de temps en temps et nous serons heureux de vous voir à nos soirées. Mais pour cette fois, et en l'honneur de notre vieille connaissance, vous viendrez dîner. Nous aurons avec nous les demoiselles Perkins. Voyons, quel jour prenez-vous ?
Mistress O'Donaghue se rengorgeait déjà dans ses trois mentons, pinçant sa bouche et préparant ses plus grands airs, car l'explosion de la joie de Patty vint couper court à tous ses beaux préparatifs.
« Bravo, papa !» s'écriait-elle en frappant dans ses mains. « Voilà qui va être amusant ! Oh Dieu, qu'elles vont être contentes ! Maman, fixez le jour avec papa. Moi, je me charge de le faire savoir à ces demoiselles. »
« Eh bien donc, à lundi, 5h30, dit M. O'Donaghue, c'est-à-dire 6h, vous savez. Mais c'est afin que vous soyez exact. » Le jour et l'heure furent accueillis par un salut de reconnaissance et après avoir reçu un doigt de M. O'Donaghue, deux doigts de Mme sa femme et de Miss Patty la main tout entière, l'ex-lieutenant se retira en méditant sur l'étonnante grandeur survenue dans l'état des affaires de son ami et créancier, et en prenant son parti de se déterminer à lier sa vie à celle de Miss Matilda Perkins, quelque minime que fût la somme qu'elle lui apporterait. La porte de la rue était à peine refermée sur lui que Patty, qui selon son habitude s'était précipitée à la fenêtre pour le voir partir, se retournait avec véhémence et les poings sur les hanches s'écriait résolument « Maintenant, je pars pour Brompton !» M. O'Donaghue se mit à rire et attirant sa fille sur ses genoux, il lui dit « Bravo, Patty, voilà ce que j'aime en vous. Vous êtes une brave fille qui a du cœur. Et à propos de cœur, ma chère, je voudrais bien un peu savoir ce qui s'est passé entre vous et Sir Henry Seymour le jour de votre entrevue à Brompton. On m'a dit au club qu'il avait quitté la ville le lendemain du jour où il vous a vu, et bien que je sache que les gens de son monde ne se montrent guère avant Noël, je m'étonne, je vous l'avoue, de n'avoir pas entendu parler de lui. » Patty était devenue extrêmement rouge pendant toute cette tirade et avait réussi à s'échapper de dessus les genoux de son père. Ayant alors bondi jusqu'au fond de la chambre où elle s'était emparée du bouton de la porte de manière à pouvoir se sauver à sa volonté, elle s'écriait « Vous n'avez pas honte de faire de pareilles questions à une jeune fille ? Ça serait du joli en vérité si les jeunes gens étaient obligés de répéter aux vieux ce qu'ils se disent entre eux.
« Soyons douces et polies, ma beauté, s'il vous plaît, » dit le père. « Revenez ici, Miss Patty, où vous pourrez bien vous en repentir. »
La façon dont ces paroles étaient dites et le regard qui les accompagnait provoquaient si bien l'obéissance que tout en faisant la moue, Patty fit trois pas dans la chambre.
« Plus près, mademoiselle, plus près, s'il vous plaît !» dit le père d'un air fâché.
Patty fit trois autres pas. Ce que voyant, M. O'Donaghue, peut-être pour éviter une scène, avança son fauteuil, dont les excellentes roulettes l'amenèrent presque face à face avec sa fille.
« Or donc, Miss Patty, tâchons un peu de nous entendre, quand je juge convenable, en tendre père que je suis, de vous faire une question importante au sujet d'un jeune homme que vous affirmez être amoureux de vous, je ne veux pas que vous veniez me dire que je devrais avoir honte de moi-même. L'affaire vaut la peine qu'on s'en occupe, et si réellement Sir Henry Seymour vous aime et veut vous épouser, je suis un trop bon père, malgré toute votre impertinence, pour chercher autre chose en tout ceci que votre avantage. Mais il me faut absolument savoir où vous en êtes. Voyons, Patty, parlez sans crainte, on ne vous grondera pas d'avoir un amoureux. Que vous a-t-il dit? Vous a-t-il prié, supplié de devenir sa femme?
Eh bien, vous pouvez me tuer, s'écria Patty, éclatant en larmes, mais jamais on ne me forcera à raconter l'histoire de mes amours.
Que le diable emporte cet enfant, répliqua le père en colère. Elle est stupide en vérité. Moi qui la croyais intelligente. Je sors, Mistress O'Donaghue, je vous la livre. Rappelez-vous seulement que je veux absolument savoir si le jeune homme a, oui ou non, promis de l'épouser. Après tout, s'il tient à prendre une femme aussi sotte qu'elle, je ne m'y oppose pas. Allons, mettez-vous à l'œuvre, vous deux, causez comme il faut, et souvenez-vous que je veux savoir à quoi m'en tenir quand je rentrerai. » Comme il est facile de se l'imaginer, la première partie du tête-à-tête entre la mère et la fille fut consacrée à couvrir d'injures leur maître et seigneur. Toutes deux, avec la même verve, déclaraient à l'envi que c'était un animal, un tyran, et qu'on n'avait jamais vu un pareil fléau. Mais cette partie de la conférence ayant pris fin, Mistress O'Donaghue, avec une certaine adresse, avec ses manières les plus caressantes, aborda le point qu'on lui avait recommandé d'éclaircir, cherchant autant que possible à éviter une querelle à laquelle, il faut bien l'avouer, la jeune personne était toute préparée. « Ça n'a pas le sens commun, dit-elle, de causer avec les hommes sur de pareils sujets. Mais avec une mère, c'est bien différent. Une femme n'oublie jamais qu'elle a été jeune, et vous pouvez me dire sans crainte toutes les petites choses qui se sont passées entre vous et Jack. Je veux dire, Sir Henry Seymour. » « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, maman, ni ce que vous avez, papa et vous, pour me tourmenter ainsi. Il faut bien que je le dise, je suis sûre que Jack ne vient pas me voir parce qu'il s'est aperçu, le jour où papa a été se promener avec lui, à quel point il est assommant, » répondit Patty. « Cela se pourrait bien, ma chère, mais il reviendra, n'en doutez pas. Quand un homme est bien épris, il ne se guérit pas si vite. Croyez-en mon expérience. Voyons, ma chérie, quel air avait-il quand il vous a donné cette boucle de cheveux ?»«
Dame, maman, je ne sais pas, moi. Croyez-vous donc que je le regardais dans le blanc des yeux tout le temps ? J'ai la boucle, n'est-ce pas ? Eh bien, en conscience, c'est tout ce qu'il vous est nécessaire de savoir, » répliqua Patty, qui était redevenue toute rouge. « Par exemple, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas emporté la vôtre si jolie, » reprit Mistress O'Donaghue.
Eh mon Dieu, que vous vous étonnez pour peu de choses, maman. Je voudrais bien savoir comment, après avoir été si brusquement interrompu et tourmenté comme il était à ce moment, il aurait pu se souvenir de quoi que ce soit.
Ça, c'est vrai, Patty. Et quand il vous a dérobé cette mèche de cheveux, je suppose qu'il aura mis sur le compte de son amour l'audace de ce procédé.
Eh bien, non, là, vrai, je n'ai jamais vu vos pareils à papa et à vous, s'écria Patty avec indignation. Je voudrais bien savoir ce que vous attendez que je vous dise. Mais enfin, si vous voulez promettre de ne plus me tourmenter ainsi, je vous dirai une chose. Et si vous n'êtes pas content, ma foi, je ne sais pas quand vous le saurez jamais. Jacques m'a embrassé. Oh, mais bien là! Qu'en dites-vous maintenant?
Très bien, ma chère, ne vous mettez pas dans un état pareil. Je crois en effet que s'il vous a embrassé, cela en dit très long. Un jeune homme aussi bien élevé. Et Mistress O'Donaghue, d'un air fort satisfait, reprit.
Allez donc, cher enfant, apprêtez-vous pour aller à Brompton. Quelle joie cela va être, hein, de dire à cette pauvre Mathilda qu'elle va se retrouver auprès de son cher Foscroft. Seulement, j'ai bien peur qu'il ne pense jamais sérieusement à elle. Elle est si maigre !»